Jesse Matthew Jr., le tueur de la rentrée scolaire. Un habitant des environs informe les enquêteurs qu'au matin du 13 septembre, il avait vu la voiture de Matthew reculer dans un chemin d'accès derrière la propriété. Le chauffeur de taxi connaît bien la région pour y avoir conduit des particuliers pendant plusieurs années au fil de ses différentes courses. Un médecin légiste de Richmond détermine que le décès est dû à une strangulation ou à une suffocation. Le nez de la victime a également été fracturé. Alors que plusieurs indices rattachent la mort d'Anna à Jesse, ce dernier, depuis sa cellule, n'avoue toujours pas le meurtre. La police fédérale continue ses recherches et finit par faire un lien avec une ancienne affaire criminelle datant d'octobre 2009, celle du meurtre de Morgan Dana Harrington, dont le corps avait été retrouvé dans des conditions similaires en janvier 2010. Également dans le comté d'Albemarle, dans une ferme abandonnée d'Anchorage, à seulement 10 km du lieu où a été retrouvée Anna. Morgan Harrington était également étudiante au moment de sa disparition et elle était originaire de Fairfax, en Virginie. Nous sommes le 17 octobre 2009. Ce jour-là, Morgan Dana Harrington devait se rendre à un concert de Metallica. Son père lui avait offert ce billet parce qu'il savait à quel point sa fille était fan de ce groupe. De plus, le concert devait se dérouler sur le campus universitaire de Charlottesville, au John Paul Jones Arena, une zone très sécurisée. Morgan Harrington ne prévoyait pas d'aller toute seule au concert. Elle y rejoint trois amis. Il est 14h30. Dans l'après-midi, le père de Morgan reçoit un ultime coup de fil de sa fille. À 19h, le stade est déjà plein à craquer. Le concert ne doit commencer que vers 20h15. En attendant, Morgan en profite pour se rendre aux toilettes. 30 minutes plus tard, elle n'est toujours pas revenue. Son amie Sarah essaye de l'appeler pour savoir où elle est. Morgan explique qu'elle a quitté l'enceinte du stade et qu'elle ne peut pas y retourner car elle a perdu son billet. Pas de chance pour l'étudiante, elle va manquer le concert qu'elle attendait tant. Elle rassure son amie, lui dit de profiter du moment. De son côté, Morgan compte rentrer chez ses parents, seule. Bien sûr, elle ne rentrera jamais à la maison. Plus personne ne reverra la jeune fille vivante. Le dimanche 18 octobre, vers 11h, la police contacte Dan Harrington pour l'informer qu'un sac contenant les papiers d'identité de sa fille a été retrouvé. Au début, son père n'imagine pas qu'il ait pu arriver quelque chose de grave à sa fille. Mais la mère de l'étudiante n'est pas aussi optimiste. Elle essaye désespérément de joindre sa fille sur son téléphone portable. Celui-ci est en permanence coupé. Tous les appels passent immédiatement sur la messagerie de la jeune étudiante. L'inquiétude monte d'un cran. L'un des amis les plus proches de Morgan les informe que la jeune fille n'a plus donné de nouvelles depuis qu'elle a quitté le stade le soir du concert de Metallica. La famille de Morgan contacte immédiatement la police. Les enquêteurs entament rapidement des recherches dans l'enceinte du stade. Ils finissent par retrouver le téléphone de la jeune fille sur le parking, mais il n'y a pas de batterie. Elle a été volontairement retirée, semble-t-il. Dès lors, une enquête pour disparition inquiétante est lancée. Le dernier appel de Morgan remonte à 20h48, lorsqu'elle a prévenu qu'elle ne pouvait pas rentrer dans le stade. Les enquêteurs examinent plusieurs heures d'images issues des caméras de surveillance du stade, mais aucune vidéo ne fournit le moindre indice sur le sort de la jeune étudiante. Deux jours après la disparition de Morgan, la police lance un appel à témoins dans les médias. Cela donne lieu à plus de 100 auditions, mais aucun interrogatoire ne s'avère probant. Le temps passe et les enquêteurs n'ont toujours aucune piste sérieuse. Nous voici déjà à la 5e journée de recherche. Des chiens renifleurs et des hélicoptères sont mobilisés pour fouiller toute la zone à la recherche de nouveaux indices, mais sans succès. Parallèlement à la mobilisation de la police, la communauté autour de l'étudiante, la famille, les amis, les camarades de la jeune fille récolte plus de 100 000 dollars de récompenses qui seront offerts à quiconque fournira des informations permettant de retrouver Morgan. James Hetfield, le chanteur de Metallica, contacte même personnellement la famille pour exprimer son inquiétude et ajoute une récompense supplémentaire de 50 000 dollars. Le groupe lance également un appel à ses fans, les incitant à partager toute vidéo de concert pouvant être utile à l'enquête. Par appât du gain, de nouveaux témoins défilent et fournissent de fausses informations. Certains disent avoir aperçu l'étudiante ivre sur la voie publique, si ivre qu'elle ne pouvait presque plus tenir debout. Des propos contredits par les amis présents avec Morgane dans l'enceinte du stade, juste avant qu'elle n'aille aux toilettes. D'autres disent lui avoir parlé, en lui proposant leur billet de concert qu'elle aurait refusé. Parmi ces multiples témoignages, quelques-uns sont authentiques et contiennent des éléments utiles aux enquêteurs. Ils permettent de retracer le parcours de la jeune disparue. Comme elle l'avait annoncé au téléphone, elle cherchait un moyen de rentrer chez elle, puisqu'elle ne pouvait plus assister au concert. À 21h30, elle a été aperçue en train de faire du stop au pont de Copley Road, à près d'une heure de marche du stade. Une semaine plus tard, la police reçoit un appel. On leur signale la découverte d'un t-shirt similaire à celui porté par la jeune fille la nuit de sa disparition. Le t-shirt est trouvé par un étudiant à environ 3 km du stade John Paul Jones. Des cheveux sont également retrouvés à proximité. Ce sont malheureusement ceux de la jeune Morgane Harrington. Le 16 décembre, 8 semaines après la disparition de Morgane Harrington, les recherches sont officiellement abandonnées. Décidée à se battre jusqu'au bout, la famille essaye d'obtenir le soutien de l'opinion publique afin qu'elle exerce une pression sur les enquêteurs. Les parents de Morgane finissent par découvrir que le magazine hebdomadaire The Hook avait déjà lancé sa propre enquête, et ce, dès le lendemain de la disparition. Une journaliste spécialisée dans les féminicides, Courtney Stewart, leur révèle qu'une femme prénommée Norma Parson a vu la jeune fille la nuit de sa disparition. Cependant, aucun policier n'a voulu prendre sa déposition. Elle raconte que le dimanche, vers 3h45 du matin, alors qu'elle livrait des journaux sur le campus de l'Université de Virginie, elle a repéré une jeune blonde accompagnée de 3 hommes près de la partie ouest de l'un des bâtiments. La tenue qu'elle décrit, une veste noire, une jupe minique noire sans bas et des bottes noires, ainsi que la blondeur des cheveux, pourrait correspondre à la description de Morgane. Les habits sont similaires à ceux portés par la disparue le jour du concert. Lorsqu'elle a déclaré cela à la police, les enquêteurs ont prétendu que son récit n'était pas assez précis. Une autre femme présente à proximité du stade affirme avoir vu 4 hommes accompagnant une blonde en bottes noires passer devant sa voiture, dans le sens opposé au stade. Elle était étonnée que ces personnes, visiblement habillées pour le concert, quittent les lieux alors que le show n'avait pas encore commencé. L'enquête démarrée par la journaliste Courtney Stewart s'est arrêtée le 11 novembre 2009, après que la police lui a signalé que ce témoignage ne correspondait pas aux images présentées par les caméras de surveillance. Le matin du 26 janvier 2010, à environ 16 km de la John Paul Jones Arena, un agriculteur nommé David Bass tombe sur ce qu'il pense d'abord être un squelette de cerf. Puis, il remarque la présence de vêtements. Il prévient la police. Le corps de Morgane Dana Harrington vient d'être retrouvé dans un champ. À l'époque, les enquêteurs n'avaient aucun indice leur permettant de découvrir l'auteur des faits. Jusqu'à ce qu'une autre étudiante ne trouve la mort, Anna. Pour ce double meurtre, Jesse Matthew risque la peine de mort. La défense de l'accusé tente d'obtenir la clémence de la cour. Et ce, au regard du parcours complexe de Jesse. Jesse Lee Matthew Jr. a grandi dans une grande pauvreté économique et intellectuelle. Dès le plus jeune âge, il a subi les brimades de ses camarades de classe à cause de son bégaiement et de ses difficultés d'apprentissage. Malgré cela, il a essayé de s'en sortir en s'investissant dans le sport, particulièrement le football américain, à Liberty University. Un talent qui lui permet de décrocher une bourse d'études. Sa famille et ses amis décrivent une personne généreuse et gentille. Des caractères à l'opposé d'un autre aspect de sa sombre personnalité. Au cours de l'instruction, les enquêteurs récoltent les témoignages de 12 femmes qui disent avoir subi des agressions sexuelles de la part de Jesse. Son avocat tente d'expliquer ses actes par son enfance difficile. Jesse Matthew aurait été un enfant agressé sexuellement dès l'école primaire. Il a gardé ce secret toute sa vie, ne trouvant de l'attention et du soutien chez personne, selon ses propos. Son père était alcoolique et souvent absent. Par ailleurs, ce dernier sera arrêté en 2006 pour attentat à la pudeur. Pour lui éviter la peine de mort, l'avocat de l'accusé propose un accord de plaidoyer en échange de l'aveu des meurtres de Anna Graham et de Morgane Harrington. Lorsque les familles des jeunes victimes sont mises au courant de cet accord, elles refusent. En effet, si Jesse avoue ses crimes, il n'y aura pas de peine de mort, mais une peine de 25 ans de prison. Pour les deux familles endeuillées, c'est insuffisant. Finalement, le 2 mars 2016, Matthew conclut un autre accord de plaidoyer. Il accepte de plaider coupable pour les meurtres de Hannah Graham et de Morgan Harrington en échange du retrait de la peine de mort et contre une peine de prison à vie. Le procès de Jesse Matthew dure un peu moins de 3 jours en raison de cet accord. Il est condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération anticipée, ni possibilité de libération conditionnelle ou pour raison médicale. De plus, il est condamné à 4 peines d'emprisonnement à perpétuité consécutive pour les viols commis par le passé. Après le procès, la famille d'Hannah Graham a continué à se battre pour améliorer la justice. Ils estiment que si leur fille est morte, c'est parce que la justice ne se montrait pas assez dure avec les délits commis par les criminels, même mineurs. Il s'appuie sur les 12 précédentes agressions sexuelles commises par Jesse Matthew Jr. En effet, en 2010, Jesse Matthew est arrêté pour violation de domicile, mais le crime n'est pas jugé assez grave pour justifier le prélèvement de son ADN. Les parents d'Hannah Graham souhaitent une révision des protocoles pour inclure l'ADN des individus condamnés pour des délits mineurs. Ils exigent que si des individus commettent d'autres crimes, leur ADN soit inclus dans une base de données du système judiciaire fédéral. Le 21 mai 2019, Matthew est diagnostiqué d'un cancer du côlon de stade 4. Il est transféré de la prison d'État de Red Onion, dans le comté de Wise, en Virginie, à la prison d'État de Sussex, à Waverly, toujours en Virginie, pour être traité contre la maladie. Aux dernières nouvelles, il est toujours en vie.